qui compte, c'est moins la liberté que la libération. Si je vous ai bien compris, ce qui compte, c'est moins la liberté que la libération, ou c'est la liberté comme libération, c'est-à-dire comme processus d'émancipation, dirait-on aujourd'hui. Comment vous interprétez alors la libération, l'année du Yovel, c'est-à-dire ce moment de détachement total, si je puis dire, et ce dans quoi elle jette l'esclave affranchi?
L'affranchissement, c'est une bonne question, parce que effectivement, l'affranchissement est né. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes d'esclavage disent qu'il faut penser l'esclavage comme une façon de se documenter et de penser l'esclavage passe par les processus d'affranchissement qui, au fond, ont commencé à exister vraiment, d'un point de vue historique, dans la Grèce antique et surtout à Rome, d'ailleurs. C'est surtout à Rome que... Mais ce processus d'affranchissement n'a rien, encore une fois, d'un processus a priori réjouissant dans les sociétés antiques où tout est... où le confort et l'obéissance. Je pense que là, on pourrait rejoindre des intuitions lévinassiennes en disant que l'esclave passe dans la sphère de la responsabilité, peut-être grâce au Yovel, et que la responsabilité, avec son sens étymologique du poids qui s'abat sur lui, le poids de sa personne, et que ce serait peut-être en ces termes qu'à partir du Yovel, on pourrait penser la liberté. C'est une direction qui nous amènerait près des analyses lévinassiennes.
D'une façon générale, les analyses de l'ordre sont rapport quand même. Les analyses d'une certaine gauche aujourd'hui
qui voit la liberté comme émancipation, comme processus indéfini d'émancipation. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, si je devais rapporter votre propos à l'échiquier politique, ou à l'échiquier intellectuel politique, je dirais que ça fait partie, que vous vous situez du côté de la gauche d'émancipation. Si je... Non, mais c'est très intéressant parce que... Non, mais ça renoue le lien avec une certaine gauche qu'on a perdue par ailleurs, dans d'autres cadres et dans d'autres circonstances.
C'est certain. Bon, c'est aussi parce que je suis parti beaucoup de ma personne. Hein. On sort de droite. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais aussi parce que je pense que la liberté est un concept, et un peu un concept, alors, je ne peux pas dire délaissé par la théorie politique, mais que la théorie politique n'aborde qu'avec réticence. Et alors, il a eu son heure de gloire après, à la chute du régime du monde soviétique, où on considérait, on a même réinterprété la Révolution française comme une révolution de la liberté et non plus de l'égalité. Mais avec, il est certain qu'avec le recul de l'idée démocratique qu'on est en train de vivre avec évidence, la liberté n'est plus une valeur politique aussi évidente. Évidemment, elle n'a pas disparu.
Oui,
oui, oui, oui, bien sûr, j'ai été... Oui, mais ce moment est loin de nous.
La théorie politique, donc on n'avait pas besoin de la thématiser comme telle, puisqu'elle était présupposée par toute doctrine politique. Et c'est ce que vous voulez dire, Furet, quand
oui,
vous
dites
la Et vous, avec d'autres, vous revenez sur ce présupposé en disant, bah, pas du tout, la liberté est toujours en train de se conquérir.
Et c'est un point aveugle, en quelque sorte, des théories politiques, que cette dimension d'émancipation que vous soulignez à partir de nos textes. Donc je trouve ça extrêmement, extrêmement stimulant. Merci beaucoup.
Merci.
Bonjour Marcal.
Oui, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous ayez trouvé dans la philosophie juive sur ces deux sujets-là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui évoque la liberté de la transgression, d'une part, et puis la deuxième chose... la libération de ses propres affects, c'est-à-dire la capacité à dominer ses propres forces.
Parce que moi, j'essaye d'éviter de penser la liberté, y compris la liberté politique, à partir du paradigme de l'obéissance. Mais c'est évidemment une façon de penser la liberté qui, depuis Kant, hein, depuis l'obéissance à la loi universelle, est un mode de penser la liberté très, très important. Qui peut être aussi un paradigme applicable au type de relation qu'on a aux mitzvot, qui nous rendent libres par l'obéissance. Être libre, c'est obéir. Alors, c'est peut-être un peu simpliste. C'est pour ça que j'essaie d'inquiéter ce genre de paradigme. Et dans ce cas-là, où la transgression, la liberté de la transgression, ne rentre pas tellement dedans. En revanche, la liberté de la transgression, elle relève de la liberté comme libre arbitre. Alors, est-ce qu'il y a dans les sources juives l'idée d'une liberté conçue comme libre arbitre ? Peut-être dans un autre récit paradigmatique, celui du Gan Eden. Mais, encore une fois, les situations de libre arbitre dans la Torah, mais là encore, j'en parle par effraction, sont toujours très problématiques. Par exemple, l'endurcissement du cœur de Paro, et même beaucoup, même Avraham Hanel et beaucoup de commentateurs se disent, mais alors pourquoi endurcir le cœur de Paro, du coup ça le déresponsabilise, il a pas, pourquoi le punir après et punir son peuple, parce que, après tout, voilà. Donc il y a un certain embarras, je pense, vis-à-vis de l'idée de liberté conçu comme libre arbitre dans la Torah, et qui d'ailleurs historiquement me paraît très postérieur, telle qu'on la conçoit nous. Évidemment, il faut faire dialoguer nos conceptions avec celles de la Torah, à la Torah, mais par contre pas. Par contre, elle est contemporaine des commentateurs. C'est-à-dire, Abraham Hanel a évidemment ça dans l'idée. Voilà, donc j'ai essayé aussi de penser la liberté autrement que sur selon le modèle du libre arbitre, cité par la tradition, par une tradition philosophique qui est plutôt sceptique ou carrément hostile à cette conception. Ça a commencé par Descartes.
Comment est-ce que vous articuleriez le fait que la Torah soit donnée comme un joug, et donc que le labeur de l'esclavage des Béné Israël vis-à-vis d'Hachem soit de fait un labeur pénible, et son caractère révélé qui témoigne d'une radicalité métaphysique absolument indépassable. Au fond, comment concilier le don de la Torah vécue comme don, avec les contraintes qu'elle implique nécessairement, qui sont des contraintes assimilables à celles de la servitude.
Je ferai une réponse assez simple. Je voulais développer.